BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
On se retrouve comme chaque jour pour vous accompagner deux heures durant dans le monde de votre épargne. C'est BFM Patrimoine qui ouvre ses portes. Mais on ne saurait commencer à parler patrimoine sans avoir regardé toute l'actu éco. Et c'est avec Faiza Younsi.
BFM Business, l'info éco.
Bonjour à tous. L'économie française poursuit sa croissance en mai, mais à un rythme moins soutenu. C'est ce que nous dit l'indice Flash PMI publié tout à l'heure. Il s'établit à 51,4. C'est un point de moins qu'au mois d'avril. Et cette fois-ci, le secteur des services ralentit, selon l'agence S&P. L'État français sera l'actionnaire unique d'EDF le 8 juin prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'économie Bruno Le Maire au micro de RTL ce matin. L'État qui a à ce jour 98% des parts. Cette renationalisation annoncée l'été dernier a coûté 9,7 milliards d'euros. Noyé sous une dette colossale, Casino a réuni hier son conseil d'administration pour solliciter une procédure de conciliation. Elle devrait s'étaler sur 5 mois et rassembler autour de la table les créanciers et les médiateurs. Objectif, tenter de trouver un accord financier et alléger cette dette de plus de 6 milliards d'euros. Une étape indispensable pour avancer sur les offres de reprise de Daniel Kretinsky et de Teract. Dans l'actualité internationale, toujours pas d'accord sur la dette américaine à l'issue de la réunion d'hier soir entre Joe Biden et Kevin McCarthy, même si cette rencontre a été productive, selon le chef de file des Républicains à la Chambre des représentants. Il affirme que le ton des discussions a été bien meilleur que toutes les fois précédentes et il reste désormais 10 jours aux deux parties pour éviter aux États-Unis le défaut de paiement. La guerre est déclarée entre TikTok et le Montana. L'application chinoise porte plainte contre l'État américain. Son Parlement a adopté un texte qui va l'interdire dès l'année prochaine. Mais selon TikTok, cette interdiction enfreint la Constitution américaine, notamment le premier amendement qui garantit la liberté d'expression. C'est le jour J pour la Société Générale. Slavomir Krupa va succéder officiellement à Frédéric Oudéa à la tête de la banque à l'issue de l'Assemblée Générale. Et elle sera d'ailleurs à suivre à partir de 16h sur notre site internet bfmbusiness.com.
Merci beaucoup, Faiza. Faiza Younsi, que l'on retrouve à 11h pour suivre cette actualité économique. Et nous, tout de suite, direction les marchés.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on retrouve Antoine Larigauderie depuis le siège d'Euronext à La Défense. Bonjour Antoine, que se dit-on sur les tables ce matin ?
Brusque inflexion de tendance hein, quand même qui a trouvé son origine sur les marchés asiatiques d'ailleurs. C'est l'indice Nikkei qui à la mi-séance était en hausse, puis franche inflexion à la baisse a entraîné derrière les places chinoises. Alors faut pas oublier que l'indice Nikkei est au plus haut depuis quasiment 33 ans, donc que quand il y a des investisseurs qui décident de prendre des profits, et ils le font de manière assez accentuée, et donc ça a instillé une tendance plutôt négative hein, sur les marchés européens alors qu'on s'attendait à une ouverture quasi stable à l'origine. Là, on perd quand même 0,6%, 7 432 points pour l'indice parisien. Alors peut-être un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'on va faire un petit pullback et essayer de retrouver de l'énergie pour ressortir par le haut, chose qu'on n'a pas réussi à faire la semaine dernière, hein, renouer avec les 7 500 points de manière durable. Mais on signe une contre-performance assez notable par rapport aux autres indices européens. Regardez le DAX à Francfort qui est en repli de seulement 0,08% et moins 0,33% pour l'Eurostox 50. Il faut dire qu'on attend aussi un certain nombre de statistiques qui incite un petit peu à la prudence, notamment les PMI, les indices des directeurs d'achat pour la zone euro, pour les États-Unis, pour l'ensemble des pays européens, pour le Royaume-Uni également, et que ça incite un petit peu à la prudence. C'est vrai qu'il n'y a toujours pas de solution au problème du déplafonnement de la dette américaine et que ça pèse sur l'ensemble des marchés. Et puis, il y a un cas particulier aujourd'hui à la Bourse de Paris qui s'appelle Vivendi, hein, Vivendi qui perd 7,2% à 8,76 €, alors après l'annonce d'une vente de titres par Bolloré, mais ça pèse lourdement sur la valeur. On a un autre secteur qui pèse, c'est celui du luxe, avec un raffermissement des taux d'intérêt assez net qui doit peut-être jouer là-dessus. Hermès recule de 3% à 1960,20 €. Il y a peut-être aussi de la prise de profit là-dessous, évidemment. LVMH moins 2,23% à 859,30 €. On a Kering aussi qui recule de 0,7% à 538,30 €. Et L'Oréal moins 0,7% à 415,85 €. Sinon, pas mal de titres résistent. On a quand même la Société Générale, hein, très bien orientée, plus forte hausse du CAC à plus 2,8% 24,02 €. D'air, effectivement, avec le départ de Frédéric Oudéa, mais également la bonne affaire de la finalisation du deal entre ALD, hein, la filiale de Flotte Automobile, et LeasePlan, hein, qui a été finalisé dernièrement. On a donc ALD qui gagne 1,66% à 11,62€, et Société Générale, donc en forte hausse. À noter la plus forte hausse du SBF 120, elle est pour Orpea, qui gagne 4,3% à 2,31€. Sinon, sur le CAC 40, a signalé la bonne performance d'Eurofins Scientifique, hein, une hausse de plus de 2%, plus de 24 à 62,06. Le CAC, donc moins 0,6, on est à 7 433 points, et l'euro, tout juste sous 1,08, on est à 1,0798 face au dollar.
Antoine Larigauderi, chaque matin pour prendre le pouls de cette première heure de cotation. Merci Antoine. Nous, on reste connectés au Monde Action.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Et on rejoint Angers où nous attend Marc-Antoine Barbet depuis MCA Finance. Bonjour Marc-Antoine.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Vous nous proposez ce matin un éclairage sur Xylem.
Oui, tout à fait Cédric. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans le monde du dessin animé avec Xylem. Donc Xylem, c'est un des spécialistes français des séries et des films d'animation. La société les présente dans 190 pays, à la fois à la télévision ou sur les plateformes de vidéo à la demande, comme sur Netflix ou Disney. La société est principalement connue pour avoir produit les séries Oggy et les Cafards, Zig et Charcot ou encore Les Contes de Lupin. La société évolue sur un marché porteur avec à la fois le fort développement de la vidéo à la demande, mais également la poursuite des diffuseurs traditionnels à la télévision, où l'objectif pour les chaînes est de maximiser l'audience pour optimiser leurs revenus publicitaires. Xylem est aussi aidé par la directive SMA qui oblige les médias à consacrer une partie de leur chiffre d'affaires dans la production locale, ce qui accentue encore davantage la demande de contenu. À titre d'exemple, il y a aujourd'hui environ une quinzaine de séries en cours de production chez Xylem. Vous l'aurez compris, Cédric, on est ici sur une société en forte croissance avec un plan 2026 ambitieux, puisque la société vise à cette échéance 80 millions d'euros de produits d'exploitation, compte un peu plus de 46 millions en 2022, ce qui représente environ 15% de croissance annuelle moyenne pour les trois prochaines années.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans Xylem ?
Alors, ce qui nous a intéressé sur le titre, c'est que la société elle a réalisé plusieurs ajustements dans son business model ces dernières semaines, avec notamment la volonté de tendre vers plus de production non propriétaire. En fait, historiquement, la société elle était payée en une fois à la livraison du projet, ce qui ne sera désormais plus le cas puisqu'ils sont payés à l'avancement du projet, ce qui va leur permettre d'avoir des revenus plus récurrents, de la visibilité et des cash flows pour réinvestir. On espère également cette année le développement du merchandising avec l'objectif affiché du groupe d'atteindre 10% du chiffre d'affaires d'ici 2026 sur cette thématique des jouets, qui sera d'ailleurs relutif pour la marge. Enfin, Xylem veut aussi se diversifier avec le lancement prévu d'offres complémentaires pour les plus grands. On parle ici de séries ou de longs métrages.
Alors, on s'est dit pas mal de choses sur les fondamentaux de la boîte. Juste peut-être aussi le petit quart d'heure valorisation, parcours du titre. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Oui, alors Xylem offre selon nous une opportunité d'investissement pour plusieurs raisons. C'est une société qui devrait cette année afficher des résultats records. Xylem est plus endetté, a des marges élevées, est peu affecté par le contexte macroéconomique puisqu'on est ici positionné sur un secteur en forte croissance qu'est la vidéo à la demande. Petit exemple, Disney et Netflix représentent à eux deux environ 40% du chiffre d'affaires du groupe. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, il y a une baisse importante du titre ces dernières semaines, ce qui est une dépréciation du catalogue, qui offre selon nous un point d'entrée intéressant puisqu'il y aura plus cet élément cette année. D'ailleurs, justement sur la valorisation, on est sur une valorisation qui nous semble abordable, notamment vis-à-vis des multiples historiques, puisqu'on est sur une décote d'un peu plus de 50% vis-à-vis des 5 dernières années. D'ailleurs, dans le secteur, on se paye plutôt aux alentours de 11 fois l'EBITDA. Donc on a un objectif de cours de 37 euros avec une opinion achat. On espère dans un premier temps nous permettre de revenir vers des multiples de ces 2 dernières années.
Merci beaucoup Marc-Antoine. Marc-Antoine Barbet, donc depuis Angers et les bureaux de MCA Finance, pour cet éclairage proposé ce matin sur Xylem. Le marché parisien, lui, est pénalisé ce matin. 7431 points, il perd 0,6%, avec comme gros événement cette baisse assez forte de Vivendi, moins 7,46% à 8,73 après une cession d'action par Vincent Bolloré.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Il est l'heure de retrouver Irina Topasseri depuis AXA IM. Bonjour Irina.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous de ce mardi. Tic-tac, tic-tac, le temps passe. Plus qu'une dizaine de jours pour éviter le défaut de paiement américain. Bon, il y a eu des rencontres, ça progresse, mais on est encore loin d'un accord.
Ça, c'est vrai, nous n'avons toujours pas de fumée blanche hein, qui sort du Capitol Hill. Certes, les discussions se disent productives, hein, je cite. Elles risquent d'être désormais journalières jusqu'à une solution probable. Maintenant, nous voyons que les comptes du Trésor auprès de la Réserve fédérale, au moins à la dernière lecture, ils étaient autour de 64 milliards de dollars. C'est moins de 10% de leur niveau à la mi-mai en 2021 ou en 2022. Donc effectivement, on table tout sur cette date du 1er juin, à partir de laquelle les mesures exceptionnelles, si vous voulez, devraient être épuisées. Hein. Donc on passerait mécaniquement sur des coupes de dépenses. Maintenant, j'ai aussi remarqué un commentaire de Madame Yellen en indiquant que le 15 juin, il y a des grosses rentrées, des rentrées assez substantielles des impôts des sociétés. Donc effectivement, la question se pose, qu'est-ce qui se passe en intérim? On peut se poser cette question entre le 1er et le 15 juin. Peut-on survivre et donc du coup pousser un peu plus loin le sujet hein. Donc là, on arrivera plutôt pour le mois d'août. Hein. Donc ce sujet peut être lancinant du coup. Mais en fait, il y a un autre aspect à garder en tête en absence en fait de relèvement du plafond de la dette. Il faut savoir que le Trésor ne peut plus émettre. Il sera limité à émettre qu'à la hauteur des instruments qui arrivent à l'échéance. Ce qui suggère en fait que le Trésor peut éviter un défaut sur le remboursement du principal. Enfin bon, le problème, c'est que si vous ne pouvez pas payer, rembourser des intérêts, hein, le déficit américain, il est autour de 5,8 points de PIB au mois de mai, estimé à peu près, donc avec un déficit primaire autour de 3,1%, ce qui veut dire que la différence, c'est les paiements d'intérêts, et quand on ne rembourse pas à temps les intérêts, ça s'appelle quand même un défaut technique. Et au-delà de ces aspects un peu techniques, je pense qu'il y a un sujet à garder en tête, c'est quand même toutes ces discussions, ces tensions, elle risque de perdurer et de pousser un peu plus loin, c'est quand même une machine à récession. Hein. Des paiements différés, un effet négatif sur la confiance, des ménages, tout ceci ne fait que pressuriser, tu vois, l'économie américaine. Enfin, ça pourrait s'accélérer tout en sachant qu'on est en train de négocier tous quand est-ce que c'est la récession. Est-ce que c'est le trimestre prochain ou celui d'après? Mais enfin bon, tout le monde l'attend un petit peu. Donc ça risque un peu de pousser un petit peu. Alors certes, on dit que la Réserve fédérale peut s'interposer, on peut refaire la planche à billets, hein, faire marcher la planche à billets. On peut invoquer l'article 14. Enfin bon, toutes ces choses-là peuvent amener à des problèmes légaux. La question reste, est-ce que ceci pousse à une récession prochaine? Et quid de la politique fiscale en 2024 si, effectivement, au vu de ces discussions, on arrive à négocier quelque chose de beaucoup plus serré en termes de politique fiscale à venir?
Voilà donc pour ce côté plafond de la dette. Et puis, il y a aussi notre agenda traditionnel qui, semaine après semaine, nous gratifie de quelques indices. Aujourd'hui, ce sont des PMI, que ce soit en Europe, il y en a déjà quelques-uns qui sont sortis, et puis aux États-Unis cet après-midi. Qu'est-ce qu'on y guette? Qu'est-ce qu'on y cherche? Toujours ces questions de récession?
Oui. En fait, on guette aussi cette chose qu'on voit de plus en plus se cristalliser, cette dissonance, si vous voulez, entre la tenue du secteur des services et le secteur manufacturier. Elle a été plutôt validée, cette dissonance, en Allemagne, par exemple, où le PMI manufacturier se voit en repli et bien en dessous 50. Hein, le niveau, vous savez, le niveau de 50 est le niveau, on va dire, de 0% de croissance hein, du secteur. Donc, le secteur PMI manufacturier montre une chute de 44,5 à 42,9, hein, juste pour donner une idée. Et puis, dans les services, vous voyez le mouvement contraire. Déjà, un indice beaucoup plus en bonne santé, qui était à 56 le mois dernier, qui accélère à 57,8. En fait, vous allez quand même avoir l'image miroir en France, hein, où les secteurs manufacturiers s'améliorent, mais restent quand même en dessous de 50, qui table donc toujours sur une contraction, mais moindre, de la production manufacturière, alors que les services se replient un petit peu, mais ça reste toujours fort, à 52,8. Je pense que l'idée ici, c'est de regarder ce secteur manufacturier qui est faiblard depuis au moins 4 mois. Hein. La question, c'est est-ce qu'il s'agit ici d'un réajustement du niveau des stocks, qu'on attendait d'ailleurs, hein, parce que vous savez, en fin d'année dernière, il y avait une reconstitution des stocks assez massive, ou bien c'est un mouvement qui est causé par autre chose. En fait, le problème, c'est de faire la différence. Combien de cet repli vient du réajustement du niveau des stocks, naturel, technique, si vous voulez, ou combien il y a une partie là-dedans qui est issue du fait que les entreprises sont plus plus précautionneuses, plus attentives, elles craignent la récession, donc du coup elles ajustent le niveau de production. Je pense que c'est ça. Et après, quand vous regardez du côté de la demande, vous voyez que la demande de biens émanant des ménages est faible. Les ménages favorisent largement les activités de service, qui sont très fortes, bien sûr, fortes aussi d'un niveau d'épargne élevé, d'un bon état du marché du travail, qui leur permettent effectivement de se positionner sur le secteur de service. Donc à quel moment ces deux choses-là se rejoignent?
Merci beaucoup Irina. Irina Topasseri, AXA IM, qui nous accompagne chaque mardi pour parler conjoncture et macroéconomie. Le marché parisien, lui, est en baisse ce matin, moins 0,55, 7436 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO.
Bonjour Main Cœur de Roi.
Bonjour Cédric.
On accueille ce matin Townley Le Guénédal. Bonjour.
Bonjour.
Pour Scarlett, vous êtes une start-up et votre leitmotiv, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux plus de 60 ans. En clair, vous voulez libérer l'argent bloqué dans l'IMO, c'est ça?
Exactement. Scarlett est un service qui s'adresse aux jeunes de plus de 60 ans. On leur permet d'adresser leurs projets, leurs rêves. Et plus concrètement, on utilise la richesse qui est bloquée dans leur patrimoine immobilier tout en leur laissant la capacité d'y vivre. Ça, pour pouvoir financer leur vie après la retraite.
En fait, vous faites du viager, quoi.
Il y a notamment du viager. Il y a aussi de la vente en nue propriété, de la vente à terme, du prêt viager hypothécaire. Donc, il y a un certain nombre de solutions qu'on essaie de rendre le plus clair, le plus lisible possible pour tous les propriétaires de plus de 60 ans.
C'est des montages particuliers pour éviter justement le viager et ce côté un peu... Bon, on va se le dire, on a toujours très peur quand il y a beaucoup... On sait qu'il y a beaucoup de personnes âgées, de plus de 60 ans, qui veulent vendre potentiellement en viager, mais on sait que les acheteurs, ils sont assez peu nombreux pour plein de raisons. D'abord, cette espèce d'aléa sur la mort qui peut refroidir pas mal de gens qui veulent acheter, la crainte d'une Jeanne Calment. Est-ce que c'est un peu ça l'idée? C'est de se dire, on va trouver des montages financiers qui permettent à tout le monde d'y retrouver son compte, en fait.
Oui, alors vous l'avez dit, il y a de plus en plus de personnes de plus de 60 ans. Il y en a 18 millions à l'heure actuelle. C'est un chiffre qui ne fait qu'augmenter, et tant mieux. C'est les personnes qui, au moment de la retraite, se retrouvent avec une baisse de leur pouvoir d'achat. En moyenne, en France, on va perdre jusqu'à 33% de son pouvoir d'achat entre votre dernier salaire et votre première retraite. Donc c'est un moment peut-être angoissant et on a envie de financer ses rêves, ses projets, aussi ceux de sa famille. Donc il nous faut des revenus supplémentaires. Et donc on souhaite permettre à ces personnes de plus de 60 ans de taper intelligemment dans leur patrimoine, dans leur épargne immobilière. Et donc jusqu'à maintenant, effectivement, l'univers notamment des ventes en viager était plutôt un univers entre particuliers. Donc une personne individuelle investissait en viager auprès d'une personne qui était propriétaire de plus de 60 ans. Nous, ce qu'on souhaite, c'est changer de paradigme. D'avoir toujours d'un côté des personnes de plus de 60 ans qui veulent améliorer leurs revenus, mais de l'autre, d'avoir des investisseurs qui sont professionnels, des fonds d'investissement qui vont acheter, via Scarlett, des biens en nue propriété.
Moi, particulière, je peux pas.
Non, vous ne pouvez pas directement. C'est plutôt des institutions financières, donc des fonds d'investissement qui vont acheter.
Donc ils vont en acheter plusieurs, j'imagine. Ils ne vont pas en acheter qu'un seul.
Exactement. Et donc dans l'exemple que vous donniez tout à l'heure de la personne qui avait fait un viager avec Madame Calment,
il était notaire, on le rappelle.
Il avait le nez creux.
Donc ça, c'est-à-dire que quand on est seul investisseur pour une transaction en viager, en fait, on prend un risque inhérent à l'espérance de vie de la personne. Ce risque, il est mutualisé lorsqu'on est un investisseur professionnel et qu'on n'a pas un viager ou une nue propriété.
Il y a plusieurs têtes, 300. Ouais. Voilà. Et du coup, vous avez un beau catalogue, parce qu'en fait, c'est ça l'idée. Il faut avoir suffisamment d'offres, il faut avoir suffisamment de demandes. Vous en êtes où, puisque Cédric le disait. Vous êtes relativement jeune, je parle de l'entreprise, hein, je ne me permettrai pas pour le reste. Mais est-ce que du coup, vous avez un catalogue suffisamment important pour pouvoir répondre et à la demande, et à toutes les demandes en fait, celle de vendre et celle d'acheter?
Alors effectivement, vous l'avez dit, il y a beaucoup de demandes. Il y a 18 millions de personnes de plus de 60 ans, il y en a 13 millions d'entre elles qui sont propriétaires, hein, 70% des Français, donc c'est vraiment une population qui est massivement propriétaire, hein, et en fait on souhaite donc s'adresser à ces 13 millions de personnes. Et donc de l'autre côté, on a créé un réseau de fonds d'investissement, donc soit des fonds d'investissement qui font de l'appel public à l'épargne, soit des clubs privés d'investissement qui sont en partenariat avec Scarlett et qui vont donc nous demander de trouver pour eux des biens achetés en propriété ou en viager.
On parlait hors antenne et je vous disais, est-ce que le climat il vous est favorable, puisqu'on n'arrête pas de dire quasiment quotidiennement tous les jours que c'est la crise Et vous me disiez un truc très juste, comme d'autres d'ailleurs solutions immobilières, c'est que finalement vous êtes un peu contracyclique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au contraire, vous avez beaucoup plus de demandes de vendeurs que de demandes d'acheteurs qui peinent justement à financer leurs projets immobiliers. Est-ce que c'est votre cas véritablement aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes aussi cette solution par rapport à ces personnes de plus de 60 ans qui cherchent d'une manière ou d'une autre et qui ne trouvent pas preneur?
Scarlett répond à un premier problème qui est le problème du pouvoir d'achat des personnes de plus de 60 ans. Et répond à un deuxième problème qui est la situation immobilière dans laquelle nous nous trouvons, où en fait il y a, vous l'avez dit, de moins en moins d'acheteurs. Il y a de moins en moins d'acheteurs. Pourquoi ? Notamment parce que les taux directeurs d'emprunt augmentent, et donc un individu qui souhaite acheter, c'est plus difficile qu'avant. Nous, comme je vous le disais, on a un réseau d'investisseurs professionnels, donc eux, ils ont déjà des fonds, donc on a déjà en fait les acheteurs. Donc ça, c'est un premier moyen qui est, comme vous l'avez dit, contracyclique. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est que ces investisseurs, ils investissent avec une décote qui est liée à votre âge notamment, et donc du coup ils vont acheter un bien peut-être 70% de sa valeur. Et donc ça, même si le marché immobilier est stagnant, voire même en légère décroissance, ça permet à terme de conserver une vraie plus-value sur votre investissement.
Mais pour le particulier qui va, la personne de plus de 60 ans qui va venir vous voir, ils vont vraiment, enfin, ils trouvent un intérêt si leur bien subit une forte décote?
Ah bien sûr, parce que aujourd'hui, alors déjà les prix de l'immobilier sont encore très proches de ceux d'hier, même d'avant-hier, donc il n'y a pas encore significativement de décote sur les prix. Nous, on fait une décote par rapport à l'usage du bien. Donc je vais prendre un exemple, imaginons Monsieur Martin, 75 ans, donc retraité, souhaite financer certains voyages qu'il n'a jamais pu faire, aider à sa famille en faisant notamment des donations du vivant. Vous savez qu'on peut donner jusqu'à 200 000 euros par couple et par enfant. Donc nous, on souhaite que les Français utilisent plus ce mécanisme de défiscaliser pour donner à leurs enfants. Donc en fait, il a besoin d'argent supplémentaire. Et donc il va réaliser une vente de la nue propriété de son bien. Donc dans mon exemple, ça va représenter 60% de la valeur de son bien, donc 240 000 euros pour une maison à 400 000 euros. Et cet argent, il va l'avoir tout de suite, proposé par nos fonds d'investissement. Et ensuite, il va pouvoir rester à vie dans son bien, voire même le louer, parce que quand on garde l'usufruit de son bien, on peut même louer son bien.
Il y a certes les vendeurs, mais il y a aussi leur famille qu'il faut un peu rassurer, parce qu'on sait que dans le viager, il y a ce petit côté, on aliène son capital, enfin, je veux dire, voilà, les descendants peuvent dire ils sont sympas de vouloir faire
derrière,
le tour du monde,
ouais,
mais il n'y a pas que ça. Donc il y a toutes ces considérations là à prendre en compte aussi.
En France, le réflexe, c'est je souhaite transmettre de la pierre à mes enfants. C'est un réflexe, il est louable, mais nous on pense que c'est un mauvais calcul. Pourquoi? Parce qu'en France, on hérite tardivement maintenant, à plus de 50 ans, parfois même 60 ans et plus. Ouais. Donc on hérite tardivement. Donc on n'est plus dans la vie active. En plus, vous pensez transmettre de la pierre à vos enfants, mais en fait, 8 fois sur 10, nous disent les notaires, vous allez transmettre de l'argent parce que la maison va être tout de suite vendue. 8 fois sur 10, la maison est vendue. Donc vous transmettez non pas de la pierre, mais de l'argent, et tardivement. Et en plus, cet argent en France, il est fortement taxé, jusqu'à 40% lors de l'héritage. Donc vous voyez, votre réflexe de voir transmettre de la pierre se transforme un peu en mauvais calcul, ouais, parce que vous transmettez tardivement de l'argent très fiscalisé.
Mais quand même, je vous interromps, le fait est que vous proposez plusieurs montages, c'est ce que je disais au démarrage, et est-ce que vous n'avez pas ce sentiment, enfin, qu'on cherche quand même à pouvoir changer d'avis, et est-ce que c'est possible? Parce que je sais qu'il existe des montages pour les personnes âgées, justement, qui veulent vendre tout ou partie de leur bien pendant un temps, et peut-être même finalement changer d'avis, racheter leur bien. Est-ce que ça, par exemple, c'est possible avec les fonds d'investissement, ou justement c'est trop compliqué parce que on est sur des opérations globales? Enfin voilà, est-ce que j'ai cette souplesse là en tant que senior de pouvoir prendre une décision à l'instant T et finalement rebrousser chemin?
Alors il y a l'une de nos solutions qui le permet complètement, c'est le prêt viager hypothécaire. Donc c'est un prêt bancaire avec votre maison en hypothèque. Et donc ça, comme c'est un prêt qui est contracté auprès de la banque, vous pouvez rembourser par anticipation votre prêt et donc redevenir plein propriétaire de votre maison, de votre appartement.
Mais je peux pas racheter à un moment donné, par exemple, si c'est avec votre fonds d'investissement qui a racheté, je sais pas moi, 10, 15, 20, 30, peu importe. Je peux pas à un moment donné dire bon, finalement j'avais quand même un peu d'argent de côté, je veux racheter les 60%. Que vous m'aviez versé, ça c'est impossible?
Alors, encore une fois, c'est possible avec le prêt viager hypothécaire, donc vous pouvez racheter la dette auprès de la banque pour reprendre totalement la possession de votre bien. Lorsque vous faites une vente de la nue propriété de votre maison, normalement c'est définitif, c'est-à-dire que vous vendez la nue propriété, alors vous en gardez l'usufruit, Peut-être expliquer aux téléspectateurs
l'usage.
Qui nous écoutent qu'il y a effectivement dans la pleine propriété, il y a la nue propriété d'une part.
Les murs et l'usage.
Exactement, et l'usufruit. Donc dans l'usufruit, il y a usus et fructus, hein, donc l'usage et les fruits. Donc j'ai le droit d'utiliser la maison ou l'appartement, j'ai le droit
de la louer les fruits. Vous disiez, ouais.
Donc ça, c'est un droit que l'on conserve, qui est quand même très intéressant de pouvoir louer sa maison ou son appartement si jamais on souhaite en fait aller vivre dans un autre endroit.
Bon. Il n'y a que l'IMO dans votre projet ou il y a d'autres produits ? Enfin, comment vous raisonnez face à d'autres solutions d'épargne qui manquent parfois de liquidité aussi peut-être et que vous pourriez intégrer dans des offres de la sorte ou pas ?
Alors, Scarlett, c'est un écosystème à destination des personnes de plus de 60 ans, des jeunes de plus de 60 ans. Donc on a cette première famille de solutions qui concerne l'immobilier. Je pense que c'est le levier le plus important pour améliorer ses revenus après la retraite parce qu'il y a cette manne immobilière qui est disponible mais qui est seulement bloquée. Et on souhaite proposer d'autres services et d'ici la fin de l'année, on a notamment un autre service qui va paraître, qui est l'assurance santé, la mutuelle. On souhaite équiper avec une bonne mutuelle les personnes de plus de 60 ans. Il faut savoir que dans sa vie d'employé, sa mutuelle est à moitié payée par son entreprise, donc on ressent un peu moins le coût de la mutuelle. Et après 60 ans, donc, en tout cas après la retraite, on va payer pleinement sa mutuelle santé.
64.
Ça va, peut-être jusqu'à 64 ans.
Plus.
En tout cas, lorsqu'on est retraité. Et donc, c'est d'un coup une charge supplémentaire. Et en plus, c'est un besoin supplémentaire, parce que avec le temps, on va de plus en plus avoir besoin d'être bien couvert. Donc, on considère que pour l'instant, les mutuelles sont pas forcément 100% adaptées à cette clientèle de retraités. Et donc, nous, on souhaite proposer, distribuer un produit d'assurance santé d'ici la fin de l'année.
Bon, ben voilà quelques idées en tête. C'est Scarlett qui nous rendait visite ce matin. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Tomley Le Guenedal pour Scarlett, donc. Merci Marie.
À demain.
Non, demain, il n'y a pas.
Quoi, demain,
mais non, demain, il n'y a pas. Vous ne suivez pas les annonces, les communiqués de la... Mais c'est une journée spéciale dédiée à l'impôt sur le revenu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. BFM Patrimoine à bfmbusiness.fr.
Oh, excusez-moi, Cédric.
Tous les jours, tous nos experts
aussi,
seront sur le
point. Non, mais je suis extrêmement déçue. Je suis extrêmement déçue.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Chaque matin à 10h30, ce sont deux traders qui sont à votre service et on retrouve ce matin Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil et Gilles Santacreux chez Boursicoté. Merci à tous les deux d'être présents au rendez-vous du match des traders.
Bonjour.
Que dire de la tendance du jour ? Gilles, on commence avec vous. Quels sont un petit peu vos repères, vos seuils, vos supports ?
Alors, la semaine dernière, on est venu tester une zone qui aurait pu être un signal assez intéressant pour une éventuelle reprise du mouvement haussier qui reste donc le mouvement de fond sur l'indice CAC 40 en venant attaquer la zone des 7500 points. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à consolider et donc on est revenu sous cette zone. Hier, on a donc marqué un début de phase de consolidation et aujourd'hui, on est dans cette continuité. Toutefois, ce qu'il faut relativiser, c'est que cette phase de consolidation, déjà, elle est très limitée. On a aussi un effet dividende, hein, puisqu'on a été aidé dans cette phase de baisse par un retrait de points qui est artificiel, hein, toujours sur le CAC 40, et donc ce qui a amplifié ce mouvement de baisse par rapport notamment à d'autres indices. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est un petit peu tiré par le luxe à la baisse, hein, qui est donc une forte pondération de l'indice, qui continue donc à nous faire redescendre. Mais lorsque l'on observe ce qui se passe, on avait une zone à observer à 7430 points. Au moment où je vous parle, cette zone, on est en train de la tester. Et si on la cassait, eh bien, on se dirigerait vers un retour de la zone majeure des 7380 points. Tant que l'on est au-dessus de cette zone des 7380 points, le mouvement de fond qui reste donc la tendance, portante, ne sera pas remis en cause. On commencerait à avoir une remise en cause sur cassure de cette zone des 7380 points, voire 7330 points. Donc globalement, on est dans un mouvement qui pour l'instant n'est pas nourri d'énormément de volume, qui est assez limité et qui ne remet pas en cause la tendance de fond. On a des statistiques qui vont arriver cet après-midi du côté des États-Unis avec les PMI, les permis de construire et les ventes de logements neufs. Ces statistiques, normalement, ne devraient pas avoir trop d'impact sur la tendance. On est toujours dans l'attente d'une résolution de ce problème lié au mur de la dette du côté des États-Unis. On aura aussi la Fed dans la semaine. Donc, entre attentisme et inquiétude, eh bien, on a ce petit mouvement qui nous ramène donc sur des niveaux qui neutralisent un petit peu la tendance court terme.
Voilà la vision proposée par Gilles Santacreux. Jean-Louis Cussac, comment jaugez-vous la séance du jour ?
Oui, c'est vrai que les marchés, si vous voulez, adoptent un biais un peu de neutralité dans l'attente de la finalité des négociations. Yellen a fixé, enfin a parlé du 1er juin, a fixé cette date. Il reste 9 séances. Il faudra donc éviter le défaut de paiement. Alors il y a un peu de stress, ok, mais c'est pas si méchant que ça. Les taux souverains progressent. Alors les PMI étaient mauvais. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des doutes, il y a des menaces et des marchés. Je vous le disais depuis plusieurs jours, attendent, mais en même temps, il y a des achats sur les indices de la part des grandes gestions. Ils savent plus. Si vous voulez, à un moment donné, on ne sait plus trop quoi acheter parce que évidemment les idées manquent, parce que les valeurs ont beaucoup progressé. Donc, on achète de l'indice, voire on vend des puts. Et à ce moment-là, si vous voulez, le marché commence un petit peu à se fragiliser. Bon, ça. Il y a longtemps que j'ai pas parlé de complaisance, c'est pas encore de la complaisance, mais ça amène un début de quelque chose, ça dure depuis quelques jours. Alors, moi je continue quand même d'acheter, en effet, alors je parle moi du futur juin, il y a 22 points d'écart avec le cash, et aujourd'hui Thalès détache un dividende, mais c'est un point d'impact seulement, donc c'est pas méchant. Donc, 22 points d'écart jusqu'à 7380, futur juin, aujourd'hui j'achète. En dessous, je considère que les premiers de rebond, si vous voulez, sont cassés pour la journée. Hein, ça ne veut pas dire que demain, après-demain, ça reparte pas, mais c'est quand même pour la journée cassé. Après, le niveau crucial, c'est 7220. Avant, c'était 7270 futur mai. Mais il y avait 50 points de dividende à peu près, donc on l'a abaissé à 7220. On a ajusté le futur, s'ajuste, si vous voulez, des dividendes puisqu'il prévoit. Ce que vaudra l'indice CAC 40 à une échéance. Donc c'est 7220, niveau crucial, qu'il ne faut pas casser. Précédemment, on avait flirté justement avec l'ancien niveau 7270 futur mai, et on avait rebondi. Bon, ben là, on va faire un peu la même chose, on va surveiller ce niveau, et tant qu'on est au-dessus, ben, on achètera, on tentera des achats, et en tout cas, sur des signaux techniques, on le fera sans aucun problème. Toujours pareil, l'euro-dollar a bien validé là, 0,770, on n'a pas cassé de 15 pipes le niveau. Là, il y a de l'hésitation, on tourne autour d'un 0,8, on sent un peu de fébrilité. Partout, si vous voulez, c'est l'attente un petit peu plus angoissée peut-être que les jours précédents, mais il ne faut pas non plus crier au loup, et il n'y a pas de changement majeur dans ce marché, même si Vivendi amène un petit coup au moral quand même avec cette baisse importante et le report en fait du côté spéculatif avec Bolloré.
Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil et ses bureaux bordelais. Et Gilles Santacreux qu'on retrouvera tout à l'heure à 11h30. Merci Gilles de suivre la séance et on en reparle donc dans une heure. Le CAC 40, lui, est toujours pour le moment en repli. Il perd 0,76%, 7421 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
Pour la polémique du jour, comment verdir l'économie française ? Elisabeth Borne a dévoilé hier son plan d'action pour le climat. Le but, réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2050. Qu'est-ce qu'on retient ?
Je vais retenir trois choses. D'abord que le gros des efforts, les deux tiers des efforts seront demandés à trois secteurs, le bâtiment, l'industrie et les transports. Les deux tiers des efforts, parce que c'est bien de vouloir de l'industrie dans un pays, mais qui dit retour de l'industrie dit qu'il faut assumer la pollution qui va avec quand même. Alors c'est hyper détaillé, hein, j'ai pas le temps de vous faire toute l'histoire ici, mais secteur par secteur, on voit le nombre de tonnes émises tous les ans, le nombre de tonnes qu'il faudra économiser à l'horizon 2030, comment on s'y prend, les montants d'investissement nécessaires. Par exemple, pour le bâtiment, 8 millions de tonnes de CO2 en moins en arrêtant le chauffage au fioul, 8 millions de tonnes de CO2 au moins en chauffant moins au gaz, et 4 millions de tonnes en faisant des mesures de sobriété, d'économie individuelle. Bon, j'en reviens à mon... Parce que justement, c'est le deuxième point. La sobriété, c'est très bien, mais ça suffira pas. Ça permet de couvrir 15% du chemin, donc c'est pas suffisant. Et le troisième élément que je retiens, c'est que le vert, c'est cher. le verre c'est cher et que donc il va falloir payer. Et parallèlement au propos d'Elisabeth Borne, était publié un rapport de France Stratégie commandé par Matignon, co-signé par Jean Pisani-Ferry, qui nous dit à horizon 2030, il faut compter 2,5 points de PIB d'investissement tous les ans. Ça veut dire 66 milliards d'euros d'investissement tous les ans, dont une bonne moitié devra venir de la dépense publique. 2,5 points de PIB, 66 milliards d'euros par an. C'est pas une paille.
Qui va payer ?
Alors, clairement, dans le rapport, on en retire deux payeurs principaux, la dette et les riches. Voilà. Parce que,
La dette et l'impôt.
La dette et l'impôt. Parce que le problème, c'est que la transition verte, ça rime aussi, dans un premier temps, avec ralentissement de la croissance. C'est une courbe en J, en fait. Vous avez commencé par descendre avant l'espoir d'une croissance verte. Ça veut dire moins de croissance, moins de recettes fiscales, moins notamment de recettes fiscales liées à la taxation des énergies fossiles, puisqu'on sera censé moins en consommer, et plus de dépenses publiques. Dans un premier temps, le rapport est clair, il vous dit, la montagne d'investissement, en plus, ça n'entraîne pas de gains de production, pas de gains de productivité. Quand vous transformez de la sidérurgie pour passer à l'hydrogène vert, c'est de l'investissement pur, mais vous produisez pas plus de sidérurgie. Voilà. Donc d'abord, c'est effectivement neutre en termes de croissance, voire pesant, parce que ça fait de la dépense supplémentaire. C'est donc de la perte de PIB entre 1,5 point et 2 points de PIB, et il y aura de l'inflation. Le rapport, il est assez équilibré. Il dit, avec les éléments dont on dispose aujourd'hui, voilà ce que l'on peut dire ou ce que l'on peut imaginer. En plus, il nous dit, on a l'assurance que la transition énergétique, ça va creuser les inégalités. Quand vous allez dire à un ménage qui doit changer sa chaudière, le ménage modeste, il va y consacrer 80% en moyenne de son revenu annuel. Le ménage classe moyenne un peu aisée, enfin moyenne sup, il va consommer 40% de son revenu annuel. C'est pas la même donne. Donc voilà, conclusion, vous avez moins de recettes, vous avez plus de dépenses, vous avez plus d'inégalités. Eh bien, il faudra de la dette publique. 10 points de dette publique en plus d'ici à 2030, ça fait 260 milliards d'euros. 25 points d'ici à 2040. Et effectivement, il y a l'idée qu'il va falloir taxer les patrimoines financiers. Et là, le calcul est très clair. 4700 milliards d'euros de patrimoine financier. Donc c'est, vous retirez l'immobilier, hein, c'est uniquement le patrimoine financier. Le gros, c'est l'assurance vie, l'épargne réglementée. Il y a 4700 milliards d'euros d'épargne, de patrimoine financier. Sur ce montant, 3000 milliards sont détenus par 10% de la population. Ben, celle-là, il va falloir qu'elle paye. Et donc, la potion est donnée. 5% de taxation exceptionnelle pendant 30 ans. 5% pendant 30 ans, exceptionnel mais pendant 30 ans, égale 5 milliards de recettes fiscales par an, soit 150 milliards de recettes fiscales au total. Voilà ce qui nous est quand même annoncé. Donc on voit que la potion est amère et que la facture est élevée. Et on voit bien que ce retour de l'ISF, qu'a cet retour de l'ISF, proposé hein, par France Stratégie, c'est quand même la pilule antidépresseur pour l'opinion, pour considérer que l'effort est correctement partagé, parce qu'il y aura encore une fois un creusement des inégalités. Et puis il y a une troisième piste qui est évoquée, pourquoi pas réduire la dépense fiscale.
C'est quoi, réduire une dépense fiscale ?
C'est monter les impôts. Réduire une dépense fiscale, ça veut dire... La dépense fiscale, c'est la dépense publique qui permet de payer les ristournes, qui permet de payer les crédits d'impôt, qui permet de payer les niches fiscales. Vous avez plein de niches fiscales brunes aujourd'hui, qui donc subventionne quelque chose contre lequel on veut lutter. Par définition, quand vous subventionnez quelque chose, vous le multipliez. Quand vous cessez de le subventionner, vous arrêtez de le multiplier et vous pouvez espérer le diviser. Alors ça va être commode d'aller expliquer aux Corses, aux taxis, aux marins pêcheurs, aux routiers, aux BTP, que l'ensemble des ristournes de taxes sur les carburants et les énergies fossiles dont ils bénéficient sont supprimées. Et là quand même, le rapport nous dit que, en toute logique, alors on comprend la logique, eh ben on peut avoir 10 milliards d'euros de recettes fiscales, enfin de dépenses fiscales en moins par an. Mais baisser la dépense fiscale, c'est baisser la dépense publique, mais à l'arrivée, c'est une hausse d'impôts pour celui qui est victime de cette baisse de dépense fiscale. Voilà un peu ce qu'on nous annonce. Alors, on avait le débat avec Emmanuel Le Chip qui dit ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que de la douleur. Et qu'on pourrait essayer au moins de raconter l'histoire avec un peu plus d'optimisme en disant regardez le monde que l'on prépare comme il sera meilleur que celui d'aujourd'hui. Enfin, pour y parvenir, il y a la fameuse courbe en J et la partie basse du J va être un peu douloureuse. Et alors là, le rapport est assez clairvoyant aussi. Il dit n'attendez rien de la décroissance. C'est une théorie complètement erronée. Mais n'attendez rien non plus de la croissance naïve qui viendra du boom de la technologie. Ça aussi, c'est une vision totalement erronée.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Le marché parisien ce matin est en baisse de 0,78%, 7 419 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille Benoît Lombard. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Pour le groupe Laplace ce matin. cette saison presque, vous nous apportez des conseils pour mieux bâtir notre retraite, c'est ça?
Bah oui, il faut la bâtir, sa retraite, hein, puisqu'on a un différent contexte, un contexte aussi démographique, hein, puisqu'on sait que l'espérance de vie augmente, hein, 85 ans pour les femmes, 75 ans pour les hommes, on a une espérance de vie donc qui s'allonge, on a une baisse de la natalité, et puis ça en arrive au constat de le vieillissement de la population. Et puis un constat aussi économique. Hein, je rappelle que les dépenses pour les retraites, c'est 14% du PIB, donc à peu près 450 milliards d'euros pour an. Puis dans ce contexte-là, on a un contexte, j'allais dire, sociétal, puisqu'on a 66% des Français qui sont inquiets, 84% qui ont même peur, qui ont une crainte pour leur retraite. Et ils ont cette peur-là, et pour autant, seulement 2% des Français épargne de manière facultative pour se cotiser la cagnotte qui va être nécessaire à combler le déficit qui va naître, la déperdition de revenus qui va naître au moment du départ à la retraite. Et là, juste des grandes inégalités, selon qu'on est cadre, non cadre, mais on est entre 40 et 58% donc de taux de remplacement. Hein. Vous aviez 100, bah vous aurez 40 ou 58 euros. Et puis selon les métiers, hein, notamment les professions libérales, il y a des caisses de retraite qui sont pas très à l'aise. Et on sait que, par exemple, un pharmacien, il aura 3 fois moins de revenus. Pour 75 000 euros, mais il aura plus que 25 000. Donc, on sait en revanche qu'un notaire, bah, lui, il a un taux de remplacement qui est plutôt sympathique, puisque son régime facultatif, ouais. son régime complémentaire, a été mieux géré.
Pourquoi ils y pensent pas, les Français? Parce qu'ils ont pas envie d'y penser? Bah, parce qu'ils pensent que c'est pas nécessaire? Ou parce qu'il y a une méconnaissance?
Ils n'y pensent pas parce qu'on leur inculque aussi l'idée que la retraite par capitalisation n'existe pas. Qu'on peut rien faire à côté. Et pour autant, qu'est-ce qu'on a depuis le mois de mai 2019, depuis le 1er octobre 2019? On a le fameux plan d'épargne retraite qui est le véhicule universel, quel que soit le régime sous lequel ou la catégorie dans laquelle on travaillait, qu'on était avant fonctionnaire.
C'est ça, parce que avant le dispositif était excessivement morcelé, les règles n'étaient pas les mêmes.
On avait des pertes,
il y avait de la
pour
rente,
les salariés, on avait des lois Madelin pour des libéraux, donc, on avait des préfonds pour les fonctionnaires. Aujourd'hui, le PER, c'est le véhicule
universel.
Le PER,
c'est un seul.
Un seul. Cotiser pour votre retraite. Déduisez, et là on peut en parler puisque on a le PER, mais on a aussi l'assurance vie, on a aussi le PER, on a aussi la tontine. Je sais que c'est un élément aussi important. On a plein de véhicules qui peuvent nous permettre, eh bien, d'être les réceptacles. Donc pour essayer de combler le paradoxe français, la retraite va baisser, les Français ont peur, il y a une épargne qui est abondante. L'épargne Covid, c'est 160 milliards l'année dernière, à peu près le même niveau en 2021, donc à peu près l'épargne annuelle, c'est 100 milliards, donc 60% de plus. Cette épargne, elle est encapsulée dans les livrets A, au taux qui ne permettent pas de combler l'inflation, qui n'offrent pas de cagnotte fiscale et qui n'offrent rien pour la retraite et qui sont pas utiles à l'économie en tant que telle. Donc ce paradoxe-là, il faut essayer, on est là. Ici, sur ce plateau, aujourd'hui, pour essayer
donc,
de
du coup,
le combler.
Donc, quel dispositif on épargne? Parce qu'en plus, on va rappeler juste rapidement qu'il ne faut pas traîner. C'est-à-dire que plus tôt on s'y prend,
plus tôt on s'y
moins,
prend.
Moins douloureux sera l'effort.
500 euros par mois de côté à 3% pendant 34 ans. Vous êtes à 30 ans, l'âge de la retraite. Quand c'est dans l'âge de la retraite, on a vu la loi qui vient d'être votée. Bon, 64 ans. Bon, 34 ans, 3%. De rentabilité à 500 euros par mois, ça nous fait, je vérifie mes petits chiffres, 353 000 euros au bout de 34 ans. 500 euros par mois, certes c'est une somme, mais j'allais dire on mange des patates maintenant ou on les mange après, hein. Donc c'est un peu ça. Si on le fait seulement 14 ans avant le départ à la retraite, donc à 50 ans, eh ben on n'a plus que 100 000. On voit que le rapport il est de 3,30. C'est le fameux anatosisme, la fameuse capitalisation des intérêts, tout ce que vous avez mis de côté avant continue de progresser. Mais si on est à 5%, taux qu'on peut envisager aujourd'hui avec les taux qu'on a sur le marché obligataire, puisqu'on est passé du TINA, vous savez, le fameux VERZI alternative, au TARA, Reasonable Alternative. Tina Tara, c'est une chanteuse californienne, on n'est pas là, mais on est passé au TARA, c'est-à-dire qu'on peut avoir autre chose que des actions, des obligations, pourquoi pas un peu d'immobilier aussi. Donc on a plein de...
Bon,
de,
vous avez cité le PER, dans quoi on investit du coup? Parce que... On va nous dire, et je les entends les critiques dire, oui, ok, on a compris, quand on parle de capitalisation avec Benoît Lombard, c'est aller mettre des actions, les actions sont
non,
risquées.
Non, j'ai jamais dit ça, moi.
Non, mais je vous dis...
Je dis juste
je me fais l'avocat du
le
diable.
Le PER, oui, ben ne soyez pas le diable, donc et je ne suis pas l'ange. Mais pour autant, je vais vous donner des éléments de réflexion fondamentaux. Première chose, on peut faire autre chose que des actions. On a le marché obligataire aujourd'hui. N'oublions pas aujourd'hui qu'on a même un marché monétaire à 3%, qu'on a des obligations corporelles, des obligations d'entreprise avec un risque relativement limité qui peut donner du entre 5 et 8% selon leur maturité. Et ça finance aussi les entreprises qui ont besoin renforcer, j'allais dire, les capitaux nécessaires à leur activité. Donc on le fait dans quel véhicule? On a dans le véhicule du PER, avantage fiscal à l'entrée, puisque je rappelle qu'on défiscalise 10% des montants, jusqu'à 33 000 euros à peu près, 8% du pass. Donc, on a l'assurance vie, on n'a pas d'avantage à l'entrée, mais on a un avantage à la sortie, puisque là, on a une fiscalité qui est, nous est agréable à partir, je veux dire, avec la flat tax dès le départ, mais au bout de 8 ans, on a une petite carte fiscale. Et puis, on a aussi le PEA qui nous permet de défiscaliser la totalité, puisqu'on ne paye que les prélèvements sociaux au jour de la sortie. Et là, on finance l'économie, PEA, PME aussi, hein, bien évidemment. Donc, on a plein de véhicules. Le PER, 4 millions. De souscripteurs, donc 54 milliards il y a dans ce véhicule-là. Et si je vous parlais des avantages fiscaux à l'entrée, on a des avantages fiscaux aussi à la sortie, puisque certes le PER, l'épargne est bloqué, sauf en cas bien sûr d'acquisition principale. L'assurance vie, c'est pas bloqué. Si vous avez un avantage fiscal à l'entrée PER, vous avez une déperdition fiscale à la sortie, puisque là vous allez payer l'avantage fiscal que vous avez économisé. Mais supposons que vous ayez un taux d'imposition à 41%, là 75 000 euros pour une part. À la sortie, puisque vous serez à la retraite et que vous allez avoir une baisse de rémunération, on l'a vu, le pharmacien, 3 fois moins, hein, pour 75 000 euros. Oui. Et bien là, on pourra changer de tranche. Et on aura un de tranche et on aura cet avantage-là. Mais si on n'y touche pas, le capital, il est transmis aussi aux héritiers. Et les héritiers, si on est en ligne directe, entre 15 000 et 552 000 euros, on est à 20%. Donc si vous avez 45% ou 41% d'économie à l'entrée pour une taxe à la fin de 20% en cas de décès, bah c'est plutôt quelque chose qui n'est pas désagréable. Donc on a le PER, on a l'assurance vie, on a le PA, on a aussi la tontine. Hein, vous savez, c'est un vieux système qui a été présenté à Mazarin sous Louis XIV par le banquier napolitain qui nous permet de mettre dans un cagnotte commune des capitaux qui fructifient et puis dont
on bénéficie
le capital est transmis aux survivants à l'issue d'un terme entre 10 et 25 ans. Donc on a plein de véhicules qui nous permettent. Ce qui est important de dire, c'est qu'il faut utiliser ces véhicules, il faut construire une stratégie, il faut aller, bien évidemment, et le PER, je rappelle, qui donne une dégressivité de l'exposition action au fur et à mesure du temps. Bah, faisons-le. Allons voir des conseillers. Nous sommes
parce
là.
Parce que d'ailleurs, vous citiez la tontine. La tontine, elle est gérée comme ça. Elle est très action au début. Et puis, au fur et à mesure, on décroît la part action dans la tontine, on accroît la part obligataire pour limiter les risques en fin de parcours.
Il y a quatre véhicules dont on a parlé là, PER, assurance vie, PEA, PEA, PME et tontine, qui peuvent permettre, le tout en étant bien panaché par rapport aux horizons de gestion, par rapport à l'appétence au risque, par rapport aux besoins de capitaux, eh bien, une stratégie intelligente repose sur l'usage au mieux de ces véhicules-là dans un contexte qui doit permettre de satisfaire 38% des Français qui ont épargne Covid et qui veulent l'affecter à la retraite. Messieurs nos compatriotes, mesdames, nos compatriotes, venez nous voir, nous sommes là pour vous aider à utiliser au mieux tous ces véhicules, certes complexes, mais que nous connaissons parfaitement.
Et s'y prendre à temps, ce sont les intérêts composés.
Bravo, l'anatosisme.
Merci Benoît. Benoît Lombard et le groupe Laplace qui nous accompagnait ce matin. De retraite, il va encore en être question dans un instant, mais auparavant, on jette un œil sur les marchés.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance. Expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Un petit coup d'œil sur notre indice CAC 40, moins 0,78%, on est à 7 419 points. Ça baisse d'ailleurs un peu partout en Europe. La grosse baisse du jour, ou la plus surprenante, c'est Vivendi, moins 6,8% en ce moment, à 8,80€, après la sortie, après des ventes d'actions par Vincent Bolloré. Et on voit que le marché ne goûte qu'assez peu à ces mouvements. Du côté des hausses, on peut signaler Eurofins, Soggen ou encore Uniba et Rodamco, le Rodol est à 1,0805.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille donc Jean-Philippe Dubosc pour tout sur mesfinances.com. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Cédric. Alors vous n'avez plus de barbe ?
Ben non.
Parce que moi j'aimais bien votre...
Ça va, ça va.
Ah ouais, mais moi j'étais jaloux de votre barbe bien fournie. Pas bon. Mais ça vous va très bien.
Peut-être que ça reviendra. Je le disais, on continue à parler retraite, oui. C'est pas une matinée spéciale, mais c'est vrai que c'est un sujet qui va, qui vient en ce moment,
qui occupe
une grande part de l'espace patrimonial, d'autant qu'il y a des députés qui soumettent le 8 juin prochain une proposition de loi pour abroger la fameuse réforme dont on est à peine sorti. Est-ce que ce texte a une chance d'être adopté, Jean-Philippe ?
Alors, juste pour rappeler, il y a les niches parlementaires. Les niches parlementaires, c'est quoi ? C'est chaque groupe de l'opposition à l'Assemblée nationale dispose d'une journée par an où il fixe l'ordre du jour de la fameuse journée. Et donc, il peut profiter de ce qu'on appelle donc cette niche parlementaire pour proposer un texte. Donc là, en l'occurrence, pour le 8 juin, c'est le groupe Liot. Vous savez, c'est ce groupe d'une vingtaine...
C'est des indépendants.
Voilà, c'est des indépendants, c'est des anciens LR, c'est des anciens centristes. Il y a même un ancien socialiste, il y a des ultramarins aussi. Donc c'est un groupe un petit peu hétérogène, mais on va dire plutôt centre-droit, qui fait une proposition de loi qui abroge les deux principales mesures de la réforme des retraites qui vient d'être adoptée, c'est-à-dire le recul à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite et l'accélération de la durée de cotisation à 43 ans, donc dès 2027 et non pas 2035. Donc cette proposition de loi, elle propose quoi ? Elle propose un retour de l'âge légal à 62 ans et elle propose les 43 ans en 2035 et non pas en 2027. Donc ça reviendrait, si vous voulez, à abroger en fait cette fameuse réforme du SOPT. Il se trouve qu'effectivement cette proposition de loi, Cédric, on va dire les choses clairement, il y a très peu de chances pour qu'elle soit adoptée et ça pour 4 raisons. La première raison, c'est que les députés de la majorité ainsi que le gouvernement, ils sont assez fébriles, hein, on les sent très très fébriles, ils sont pas très très sûrs d'eux, évoquent l'article 40 de la Constitution. Alors qu'est-ce que c'est que cet article 40 ? C'est de dire, quand il y a une proposition de loi donc qui est proposée par des députés, il faut que ce texte ne diminue pas les recettes de l'État ou n'augmente pas les dépenses de l'État. Qu'il n'y ait pas de dégradation financière, si vous voulez, que ça ne crée pas une charge financière. Or, là, cette proposition de loi, donc ça supprime ces deux Bien mesures sûr. D'économie. Alors certes, ils ont prévu, les députés Liot, une augmentation de la taxe sur le tabac, mais c'est vrai que la majorité a un petit peu raison, ça va être difficile de trouver 15 milliards d'euros par an en augmentant prix des clopes. Hein, ça va être, ou alors il va falloir vraiment fumer beaucoup, et je ne sais pas si c'est très très bien pour la santé des Français. Donc, il y a ce fameux article 40 qui va peut-être être saisi et dans ces cas-là, ça fait tomber la proposition de loi. Oui. La deuxième chose, c'est que le gouvernement, en fait, joue un petit peu l'obstruction parlementaire, c'est-à-dire qu'il peut déposer plein d'amendements, il peut
qui
faire
a été
traîner,
fait d'ailleurs voilà. pendant...
Voilà, alors ça serait un petit peu délicat parce que effectivement le gouvernement a beaucoup critiqué notamment la France insoumise puisque ça a été sa technique pour pas que la réforme des retraites soit adoptée à l'Assemblée. C'est vrai que ça serait un petit peu savoureux, un petit peu comique presque d'utiliser en fait l'arme de ses opposants. Alors, mettons, donc ça c'était le deuxième point, mais mettons que la proposition de loi passe effectivement le cap de l'Assemblée nationale, ce qui serait possible puisque la proposition de loi n'a besoin que d'une majorité simple, mais ensuite vous vous souvenez que le groupe Liot avait déposé une motion de censure contre le gouvernement Borne suite au 49-3 pour la réforme des retraites et que la motion n'avait été rejetée que de 9 voix. Mmh. Et que déjà il y a une vingtaine de républicains qui disent qu'ils sont pour cette proposition de loi. Donc c'est peut-être que ça va passer l'Assemblée nationale. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça va pas passer le Sénat, puisque les sénateurs, depuis des années, militent
donc le match est plié, quoi.
64 ans. Alors, le match est plié, pas tant que ça, Cédric, et c'est pour ça que on voit qu'Élisée Borne, que des ministres, que des députés de la majorité disent que ce texte est anticonstitutionnel, que c'est une aberrance économique, etc., etc. Preuve qu'il y a une certaine fébrilité, comme je disais. C'est pas sûr du tout. Et même si, mettons, cette fois-ci, ça ne passe pas, c'est pas pour ça que le gouvernement serait tranquille.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Tous les groupes de l'opposition ont prévenu qu'ils allaient utiliser leur niche parlementaire
pour la même raison.
Proposer également une loi qui abroge la réforme des retraites. Donc on voit bien que le feuilleton de la réforme des retraites est loin d'être fini, Cédric.
Bon, est-ce qu'il n'y a pas une forme de solution qui peut passer par cette fameuse conférence sociale promise par Elisabeth Borne ?
Alors, c'est vrai qu'Elisabeth Borne a promis... Vous savez, là, elle est en train de faire des rencontres bilatérales avec les organisations paritaires, mais là, elle veut une grande conférence multilatérale, donc à la fois avec les syndicats et avec le patronat. Alors, c'est assez savoureux parce que c'est justement l'article 2 de la fameuse proposition de loi Liotte qui propose la tenue d'ici le 31 décembre prochain d'une grande conférence sociale où il y aurait effectivement les syndicats, le patronat et puis aussi des citoyens tirés au sort et des personnalités qualifiées. Bon, le seul souci c'est qu'on sait que de toute façon Elisabeth Borne ne veut pas revenir sur les 43 ans et sur les 64 ans pour l'âge légal de départ. Or les syndicats ont dit si on revient pas sur ces deux mesures, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc même s'il y a cette grande conférence sociale, je vois pas en quoi en fait ça remettrait, enfin ça changerait les choses en fait.
Et est-ce que tout ça ça peut contribuer à stopper le processus ou à le ralentir, à le gêner, à faire que cette réforme des retraites soit pas mise en œuvre.
Alors non, parce que la proposition de loi n'est pas suspensive. C'est-à-dire que, effectivement, encore une fois, ça va être examiné le 8 juin. Mais pendant ce temps, le temps de la réforme continue. Et d'ailleurs, on espère avoir enfin les premiers décrets. Donc non, le cabinet du SOPT nous a, puisqu'il y a eu un briefing téléphonique avec la presse, le cabinet du SOPT nous a assuré que la réforme rentrera bien en vigueur le 1er septembre prochain. Et là aussi, Cédric, c'est peut-être pas si sûr que ça.
Ça veut dire quoi ?
Eh ben, ça veut dire que même si les caisses de retraite nous assurent, mordicus, qu'elles seront prêtes le 1er septembre, quand on coupe le micro, quand on est en off, comme on dit, on va dire que les directeurs de caisse sont un peu moins sûrs qu'eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, le délai est très très court. Moi, c'est la quatrième réforme que je suis. C'est la première fois qu'on a à peine 4 mois, en fait, entre la promulgation du texte et l'application du texte. Normalement, on est plutôt vers 6-7 mois, ce qui change tout. En plus, le gros des décrets vont être publiés en juillet-août pour un 1er septembre, donc ça va être très très court. La preuve, c'est que toujours le cabinet du SOPT nous a reconnu que, vous savez, la fameuse pension minimum à 1 200 euros, et bien sur les 1,8 million de retraités qui vont bénéficier de ce coup de pouce, et bien il va en avoir 1 million qui vont en voir la couleur le 1er septembre. En revanche, il y en aura quand même 800 000 autres pour qui ça va être appliqué pas avant 2024.
Oui. Les plus anciens notamment, parce que il faut, c'est tout bête, hein, mais il faut ressortir des dossiers qui n'étaient pas informatisés.
Exactement, donc c'est compliqué. Mais ça prouve quand même que tout ça est fait dans un temps vraiment très très court.
Merci beaucoup Jean-Philippe.
Merci Cédric.
Jean-Philippe Dubos qui est tout sur mesfinances.com. Dans un instant, on va aller jeter un œil sur ce marché qui perd 0,87% en ce moment. Suivra Regard Croisé. À tout de suite.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.